étranger est en train de se radicaliser sur être indésirable. Ce qualificatif-là vient très largement des élites. L'après-guerre froide a été marqué par un grand revirement des politiques et des déclarations au niveau des pays européens, des gouvernants, des administrations, qui ont commencé à désigner les étrangers, les pays du Sud en particulier, les migrants et les réfugiés comme des personnes qui représentaient un fardeau dont on ne devait pas avoir toute la charge. C'est un discours tout à fait différent de ce qu'on entendait avant, toute la période de la guerre froide, où au contraire, bien les exilés étaient des gens pleins d'honneur et pleins de reconnaissance, même s'ils vivaient des moments difficiles. Il y avait de la part des gouvernements et des élites une reconnaissance a priori. Or aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est l'inverse. Et quand on voit un petit peu ce qui se passe en France ces dernières années, c'est très largement de la part des gouvernants et des élites que viennent les appels à l'enfermement identitaire et au refermement des frontières. C'est l'exemple ces dernières années avec toute cette affaire de ministère de l'identité nationale, etc.
Est-ce que cela signifie que la peur de l'étranger, la xénophobie, est une construction culturelle?
Je ne suis pas sûr que spontanément les gens soient fermés à l'autre. On ne peut pas considérer que le peuple serait dans l'inquiétude identitaire et les élites auraient à gérer ça, non. On constate le contraire ces dernières années en Europe et largement dans le monde, c'est des choses qui sont largement tenues par les élites de désigner l'étranger, soit comme le bouc émissaire de tout ce qui ne marche pas, soit de se prémunir contre les différents aspects de la mondialisation, puisque les mouvements de population qu'on voit aujourd'hui sont finalement rien d'autre que la part humaine de la mondialisation.
Alors les États occidentaux optent pour des politiques de plus en plus restrictives. Peuvent-ils vraiment restreindre le droit d'immigrer?
C'est très important de rappeler ce droit d'émigrer, qui est le droit de quitter son pays et d'entrer dans un autre pays. Les États européens ont fait accepter au monde en général, et aux pays africains en particulier, la notion d'émigration clandestine. Or, l'émigration clandestine, ça n'existe pas sur le plan juridique. Tout le monde a le droit d'émigrer. Ça veut dire quitter son pays et poser les pieds dans un autre pays où il peut demander l'asile, où il peut demander le droit d'immigrer, et l'autre pays, bien sûr, lui répond à sa manière. Avec la nouvelle loi Besson, la multiplication des pseudo-zones d'attente, c'est-à-dire on considère que dès qu'un étranger est quelque part sur un territoire, on transforme ce territoire en zone d'attente. Donc on ne lui applique pas les droits auxquels il aurait droit s'il était considéré comme étant sur le territoire national, par exemple demander l'asile ou faire une demande de carte de séjour ou je ne sais quoi. Donc on exclut les étrangers les plus indésirables du droit d'avoir des droits dans le contexte national.
Ces politiques restrictives sont-elles légitimes?
Leur légitimité, où l'apprennent-ils ? Peut-être que c'est ce qu'on dit aussi, c'est-à-dire d'aller essayer de chercher des voies à l'extrême droite. D'une certaine façon, les gouvernements se droitisent comme ça progressivement en prétendant avoir une légitimité du peuple qu'à mon avis, sur ces questions-là, on n'a pas la preuve qu'ils l'ont.
Voici des exemples d'applications violentes des politiques anti-asile. À Ceuta, en septembre 2005, des policiers espagnols et marocains prennent eux-mêmes le droit de tirer sur des migrants. Comment expliquer cette dimension violente en l'homme?
Se sentir avoir le droit de tirer ou avoir le droit de tuer. Dans la police, ce qui est encouragé, c'est une attitude de chasseur, c'est la chasse aux migrants. Et donc les policiers qui vont aller derrière les migrants aux frontières, on les appelle des chasseurs. C'est quelque chose qui est valorisé, on devient des héros. Donc si vous voulez, on ne peut pas séparer ces attitudes individuelles, comme le droit de tirer, le fait de pouvoir être armé. Donc il faut qu'ils se sentent légitimés. S'ils se sentent légitimés par leur État à faire ce qu'ils font, non seulement c'est de l'impunité, mais on leur demande de le faire. Vous avez donné quelques exemples, il y en a d'autres. Par exemple, ces pêcheurs italiens qui ont repêché des migrants africains en Méditerranée et qui ont été mis en jugement parce qu'ils les avaient repêchés. Ça a duré plusieurs mois, cette affaire. Finalement, parce qu'il y a eu des protestations de la part d'associations, etc., il semblerait que j'ai pas eu de condamnation, en tout cas pas de prison. Mais il n'empêche, ça veut dire que les autres pêcheurs savent que s'ils recueillent des naufragés africains en Méditerranée, ils risquent d'être considérés comme des criminels. Alors non seulement on décourage la solidarité, mais on la punit. Et c'est ce qui se passe en France avec ce qu'on appelle le délit de solidarité. On ne peut pas penser, si vous voulez, à l'état brut des passions populaires sans se demander quelles sont les politiques qui les valorisent.
Y a-t-il d'autres principes altruistes que ces politiques anti-immigration ont altérés?
Cette question de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est la réponse qu'on doit faire aujourd'hui à cette ambiance générale. Hein. L'hospitalité, c'est à la fois ce que chacun ressent, et ben, j'accueille chez moi qui je veux, et puis c'est ce qui permet au monde de tourner, c'est le principe même de la reconnaissance de l'altérité. Le premier geste de l'hospitalité, c'est la rencontre. J'ai eu une hospitalité, comme on dit, inconditionnelle, et je ne sais pas ce qui va se passer, mais je fais un geste de rencontre vis-à-vis de l'autre. Et donc, de ce point de vue-là, l'hospitalité, elle est première, elle est ce qui permet la rencontre, ce qui permet de défaire la distance. Au contraire, les politiques aujourd'hui radicalisent en insistant de manière très artificielle sur les différences. Une fois que tout le monde a entendu en France qu'il est condamnable de recevoir chez soi un étranger sans papier, alors le principe même de l'hospitalité est combattu au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire l'hospitalité privée, personnelle, j'accueille chez moi qui je veux. Et donc, bien sûr, l'hospitalité dans son sens public, notre État a des institutions qui permettent de soutenir, d'encourager, de favoriser l'accueil des étrangers. Le droit de circuler, le droit d'émigrer et l'hospitalité sont deux choses qui me semblent importantes à rappeler aujourd'hui pour que le monde fonctionne.